Un dragon dans mon jardin, l'émission qui coasse.
Pour recenser les amphibiens du département, le CPIE du Rouergue lance une opération à vie de recherche.
Radio Larzac, Radio Sainte-Afrique, Radio Temps et CFM Radio se joignent au projet.
Avec l'émission Un dragon dans mon jardin, partez à la découverte de créatures inconnues ou mal connues. Les amphibiens.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Un dragon dans mon jardin, une émission qui vous dit tout, ou presque, sur les batraciens de nos régions. Au sommaire de cette seconde émission, un entretien avec Jérôme Bussière, chargé de mission au parc naturel régional des Grands Causses, qui nous présente l'inventaire des zones humides. Vous le savez sans doute, zones humides et amphibiens représentent un enjeu particulier pour la préservation de la biodiversité, et ce à différents niveaux, planétaire, national ou local. C'est pourquoi nous avons choisi d'aborder cette thématique. Et en fin d'émission, retrouvez notre jeu avec une nouvelle devinette.
Un dragon dans mon jardin.
Jérôme Bussière, le parc naturel régional des Grands Causses a mené récemment un inventaire des zones humides sur son territoire. Quels sont les types de zones humides qu'on rencontre sur ce territoire ?
Alors effectivement, le parc a réalisé, termine actuellement donc un inventaire des zones humides de son territoire. Avant cet inventaire, on connaissait la présence de zones humides sur le territoire du parc, notamment sur le massif du Lévézou, qui est bien connu pour ses tourbières et prairies humides. L'ambition du parc était d'un petit peu mieux connaître les autres zones humides qu'on pouvait rencontrer sur le territoire. Donc en termes de zones humides, on identifie à peu près une douzaine de grandes familles de zones humides, de la source à la rivière. Donc les groupements de sources, les groupements végétaux qu'on trouve à proximité des sources sont des zones humides. Les tourbières prairies humides en tête de bassin, et plus en aval, à proximité des rivières, les zones inondables et les ripisylves, qui sont les boisements rivulaires en bordure de cours d'eau, sont différents types de zones humides qu'on peut rencontrer sur le parc. On a également des différences selon les substrats géologiques, la roche sur lequel se trouvent ces zones humides. On va avoir, comme les tourbières, des zones humides plutôt acides, et sur les zones calcaires, des zones humides à tendance alcaline.
On associe souvent le terme de zone humide, au moins pour le grand public, à la présence de l'eau. Est-ce que c'est le seul élément de définition qui rentre en ligne de compte ?
Alors, comme les zones humides font l'objet de différents usages sur lesquels il peut, qui peuvent entrer en conflit, le terme de zone humide a été défini d'un point de vue juridique, sur la base des connaissances scientifiques qu'on pouvait avoir sur les zones humides. Et donc il y a trois critères qui permettent de reconnaître les zones humides. C'est pas forcément la présence d'eau, qui peut être temporaire ou occasionnelle. Ce qui va caractériser les zones humides, c'est soit la présence d'espèces végétales indicatrices, une plante particulière qui apprécie ou qui ne pousse que dans un type de milieu relativement contraint du fait de la présence d'eau régulière, soit par le cortège de plantes, c'est-à-dire un ensemble caractéristique de plantes, donc on est un petit peu là sur le même registre. Mais on peut également définir la présence de zones humides par le type de sol qu'on rencontre, qui va avoir une structure particulière du fait de la présence d'eau permanente sous le niveau apparent de la surface du sol.
Quels sont les enjeux liés à l'existence de ces zones humides ?
Alors, les zones humides sont à l'intersection de deux grands enjeux. un sur le maintien de la biodiversité et l'autre sur le maintien à la fois quantitatif et qualitatif de la ressource en eau. Sur le premier point, sur l'aspect biodiversité, on peut citer à titre d'exemple que en France métropolitaine, si les zones humides couvrent 1 à 2% des terres, elles abritent 20%, un cinquième de la flore protégée. Donc, ce qui montre un petit peu l'intérêt des zones humides pour la biodiversité. Donc, ces plantes, effectivement, sont adaptées à un environnement particulier qui est soit l'absence d'oxygène du fait de la présence permanente d'eau, soit pour les tourbières, par exemple, d'un très faible taux en matière minérale. Et donc, vont se développer des plantes particulières comme la drosera, qui est une plante carnivore, qui va trouver l'azote nécessaire à la fabrication des protéines par les apports protéinés des insectes qu'elle capture. On a des intérêts aussi indirects pour la faune, dans la mesure où les zones humides sont les milieux qui vont rester les plus verts en période de sécheresse, donc qui vont profiter aux herbivores de manière générale. En ce qui concerne d'autres zones, et notamment des mares et la Vogne, qui sont un petit peu particulières à notre territoire, dans l'environnement assez sec des causes, ça va constituer une sorte d'oasis dans lesquelles vont pouvoir se reproduire des amphibiens et quantité d'insectes, et pourront venir profiter de ces insectes, des oiseaux, des chauves-souris qui viendront aussi s'alimenter ou s'abreuver sur ces zones-là.
Justement, notre émission Un dragon dans mon jardin s'intéresse particulièrement aux amphibiens. Quel est le rôle des zones humides dans le cycle de vie des amphibiens ?
Alors, d'une manière générale, le cycle des amphibiens est assez large. Il ne profite pas uniquement de la mare et de son environnement proche dans son cycle complet de vie, mais la présence d'eau, même de manière temporaire, est indispensable à la reproduction des amphibiens. C'est le lieu où vont venir pondre et où va se développer leurs larves, c'est-à-dire les têtards.
Et enfin, quelles sont les préconisations ou les actions à mener en matière de préservation ou de réhabilitation des zones humides ?
Alors, il y a plusieurs enjeux. D'une part, intégrer la zone humide quand on est éleveur ou agriculteur dans ces itinéraires. Ça peut être, comme je le disais, pour la faune sauvage, mais c'est également vrai pour la faune domestique, des lieux temporaires où on trouvera des ressources fourragères, même maigres, mais toujours présentes dans les périodes de sécheresse. Pour cela, quand un agriculteur souhaite intégrer la zone humide ou l'aménager, une cellule d'assistance technique à la gestion des zones humides, portée par la DASEA, a été mise en place dans l'Aveyron. Ça, c'est un premier point. Second point, c'est l'exigence de prendre en compte ces zones humides dans l'aménagement du territoire, et notamment au moment de l'élaboration des documents d'urbanisme. Donc c'est des éléments qu'il faudra identifier et préserver dans ces documents.
Et alors, toujours sur le même sujet, est-ce que la présence d'amphibiens joue un rôle particulier dans la préservation de ces zones humides ?
Alors, non, pas directement. La présence d'amphibiens est importante pour préserver la biodiversité et gérer l'aspect fonctionnel de l'écosystème mare, c'est-à-dire que les amphibiens vont au travers la prédation pour se nourrir. Manger un certain nombre d'insectes qui sont présents dans la mare. Donc ils jouent un rôle essentiel dans la régulation des populations d'insectes qui, eux aussi, profitent de la présence de zones humides.
Un dragon dans mon jardin.
L'émission du CPIE du Rouerg. Rainette méridionale.
Grenouille rousse.
Triton palmé. On leur tire le portrait.
Tu as un chant caractéristique composé de cris brefs et espacés. Il ressemble aussi au cri du hibou petit duc. Tu es
« On m'appelle crapaud accoucheur » ou « Alit ».
À quoi est-ce que tu ressembles ?
Je suis petit, rondouillard paraît-il. Je suis tout gris. Par contre, j'ai des beaux yeux dorés avec de jolies pupilles verticales.
Où est-ce que tu vis ?
Je vis dans les milieux ouverts ou fermés, mais ce que j'apprécie particulièrement, ce sont les milieux pierreux, comme les carrières, car j'aime beaucoup, pendant la journée, me mettre à l'abri du soleil sous des tas de pierres.
Qu'est-ce que tu manges ?
J'ai un régime alimentaire très varié, je mange des araignées, des scarabées, des limaces et même des mouches.
Est-ce que tu as une particularité ?
Oui, on peut me reconnaître, car je porte mes œufs sur le dos. En fait, chez mon espèce, c'est le mâle qui va s'occuper des petits. Il va porter les œufs jusqu'à ce qu'ils éclosent.
Quand est-ce que l'on peut t'observer ?
On m'observe généralement de février à septembre, mais plus particulièrement en avril. Je vais rythmer vos longues soirées d'été par mon chant flûté.
À chaque chronique, sa devinette. À chaque chant, son batracien.
Tu es certainement le plus connu des amphibiens, facilement reconnaissable à ta couleur vert-pomme. Vous avez deviné ? Le portrait de ce batracien clôturera la prochaine chronique du CPIE, diffusée à partir du 31 mars sur nos ondes.
Des amphibiens chez vous ? Identifiez-les avec l'aide du CPIE du Rouerg.
Pour participer à l'opération Un dragon dans mon jardin, visitez le www.cpie-rouerg.com.
Une opération soutenue par l'Europe, la région Midi-Pyrénées, l'État et les agences de l'eau.